La liturgie des heures, prière de toute l'Église. Aujourd'hui, nous retrouvons le frère Benoît-Marie Solaberrieta, prieur de l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte. Cette intervention a été enregistrée le 11 mars 2017 lors d'une journée proposée par le service diocésain de pastoral liturgique et sacramentelle et par la commission diocésaine de musique liturgique. La semaine dernière, dans une première partie, le frère Benoît-Marie nous a proposé une brève histoire de la liturgie des heures. Aujourd'hui, il nous parlera de la liturgie pour sanctifier les heures et nous proposera une petite pédagogie de l'office. Le frère Benoît-Marie Solaberrieta.
Deuxièmement, la liturgie des heures, grande 2, une liturgie pour sanctifier les heures. Alors, petite précision de vocabulaire. Quand on parle heure, il ne faut pas penser aux 60 minutes. C'est pas ça. Il faut oublier les 60 minutes. Le terme « heure » ici indique que les prières de cette liturgie sont destinées à sanctifier, à honorer le Seigneur, à sanctifier le temps, à glorifier chaque heure de la journée, si vous voulez, à répondre à l'invitation du Seigneur, prier sans cesse. Alors ce qui me réjouit et même me subjugue, c'est-à-dire que je me dis, comme la terre est ronde, durant les 24 heures, il y a toujours sur cette terre un ou un groupe ou une personne qui prie le Seigneur, voilà, sur la liturgie des heures, parce que voilà. Le titre de liturgie des heures, donné à la prière officielle de l'Église, exprime l'essentiel de sa vocation. Cette prière s'appuie sur une donnée fondamentale de la vie humaine, qu'est le temps. En proposant d'offrir les heures de la journée au Seigneur, cette liturgie honore le besoin humain du rythme. Nous sommes des êtres rythmés, vous savez. Nous sommes des êtres rythmés. En effet, notre vie est ponctuée de rythmes. Je cite la respiration, le sommeil, l'éveil, la parole, le silence, le travail, le repos. L'homme partage le rythme de la nature, le jour et la nuit, les saisons de l'année. Et souvent, des fêtes célèbrent ces rythmes. Eh bien, les tâches d'une journée ont aussi leur cadence, l'heure du lever, l'heure du coucher, les heures du repas, le temps passé dans les moyens de transport, peut-être pas trop nous, mais les horaires de travail, les pauses café, le journal de 20 heures. Bon. Selon les cultures, certaines activités l'emportent sur d'autres. Et aujourd'hui, à notre époque, nous voyons l'importance que prennent divers rythmes, celui des jours ouvrables, diffère de celui des week-ends. C'est toujours une expérience ici, je fais une parenthèse, lorsqu'il y a des gens qui viennent faire retraite, voilà, ils passent maintenant 8 jours, ils sont marqués, mais vous avez toujours le même rythme, même le dimanche, mais oui, il n'y a pas 5 jours et 2 jours, nous avons le même rythme. Bien. Alors que dans la vie courante aujourd'hui, il y a ces 5 jours et 2 jours. Le week-end, c'est quand même différents. Quels qu'ils soient, les rythmes nous façonnent. L'homme soumis au rythme de la vie grandit et s'épanouit grâce à eux. Chaque temps de la vie de l'homme a son sens particulier. Sanctification du temps. Sous le regard de la miséricorde de Dieu, le chrétien, le priant, vit sa journée avec ses activités particulières, dans une lumière nouvelle. La relation à Dieu l'emporte sur toutes les activités quand il prie le matin ou il prie le soir. Et cette démarche change profondément le regard du croyant et sa relation aux événements du jour. Jour après jour, celui qui est conduit par la prière, voilà, il est conduit par la prière vers son accomplissement humain selon la volonté du Seigneur. La sanctification du temps est donc le but principal de la liturgie des heures. Ainsi, il n'y a pas une seule minute où quelque part dans le monde, je le disais tout à l'heure, ne s'élève vers Dieu une prière de louange ou de supplication, bien sûr. Et depuis des siècles se réalise ainsi l'incessante prière de l'Église universelle. Donc, sanctification du temps consiste à consacrer à Dieu le temps qu'il donne aux hommes. Et dans la liturgie des heures, l'Église consacre à Dieu le temps des hommes. Deuxièmement, la liturgie des heures et l'Eucharistie. Tout au long de la journée, la liturgie des heures rend à Dieu la grâce du temps donné aux hommes. On sait bien que l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie, est avant tout une prière d'action de grâce. La liturgie des heures, si vous voulez, est une manière, est une résonance, si vous voulez, de l'Eucharistie. Je dirais comme ça. En priant la liturgie des heures, nous ne célébrons pas l'Eucharistie, mais nous faisons résonner l'action de grâce de l'Eucharistie. Alors l'Eucharistie est célébrée à une heure, souvent c'est le matin ou le soir, parfois à midi. Mais la liturgie des heures est là pour, comme résonance de cette célébration d'action de grâce. La prière de l'Église est donc une prière, est une façon de faire Eucharistie, c'est-à-dire de rendre grâce. Troisièmement, sanctification de l'homme. Dieu parle à son peuple dans les Saintes Écritures, mais aussi dans les événements de la vie, dont la lecture se fait dans la foi. Et par-dessus tout, Dieu parle à son peuple, donc à chacun de nous, par son Fils Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, le Verbe fait chair. Et les chants et les prières de la liturgie des heures sont précisément des actes privilégiés où le peuple des baptisés, où chaque baptisé reçoit la parole du Christ, la parole de Dieu, reçoit la parole de Dieu et répond à Dieu qui l'écoute. Ça, c'est une spécificité aussi de la liturgie des heures. À la fois, nous recevons la parole de Dieu à travers la prière des psaumes, et à travers, on va le voir à travers les lectures, mais Dieu également reçoit notre prière. Quatrièmement, la louange à Dieu en union avec l'Église du ciel. Nous l'oublions trop souvent. L'Église, ce n'est pas simplement l'ensemble des baptisés sur cette terre. Ça, c'est l'Église terrestre. Mais il y a aussi l'Église céleste. Et on forme une seule Église. C'est le Christ qui fait le lien. L'Église de ceux qui déjà participent à, je dirais, à la louange totale. Pour l'instant, nous, sur cette terre, nous sommes dans l'ordre de la foi. Nous prions, nous vivons derrière un voile, le voile de la foi. Au-delà du voile, ou si vous voulez, sur l'autre rive, nous vivrons, et ceux qui nous précèdent vivent. Ça, c'est capital hein, aujourd'hui, de le croire, de le penser, de le dire, de l'espérer. Ceux qui nous sont précédés, qui sont déjà auprès du Père, vivent dans l'action de grâce plénière auprès du Père. Eh bien, la liturgie des heures nous fait vivre cela. Quiconque a participé un jour à une liturgie dans une église de rite oriental a été frappé par la place et le rôle que tiennent les icônes. Vous savez, les icônes qui sont le signe que par la liturgie, l'église terrestre s'unit à l'église céleste pour adorer et louer Dieu. Eh bien, la liturgie des heures, et au plus haut point la liturgie eucharistique, réalise cette union, comme l'exprime la prière de la préface à la messe, qu'on entend à chaque messe, qui termine la préface. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix, saint, saint, saint. Voilà. Donc, la liturgie des heures nous unit à l'Église du ciel. Cinquièmement, supplication et intercession. L'Église demande à ceux qui sont peut-être qui ont vocation de célébrer la liturgie des heures de prier pour le peuple. C'est entre autres, c'est notre travail, notre vocation de prier pour nous moines, de prier pour l'ensemble des baptisés et plus largement l'ensemble du monde, prendre en charge tout le peuple de Dieu. Mais cette mission d'intercession revient aussi à tout chrétien. Parce que par le baptême, Nous faisons partie de ce peuple de Dieu, un peuple qui nous unit au Christ, et nous avons comme mission, chacun selon sa vocation, d'intercéder par le Christ auprès du Père. C'est pourquoi l'Église invite tous les chrétiens à prier avec la liturgie des heures, soit évidemment dans les monastères, mais aussi dans les paroisses, dans les mouvements, dans les groupes, en famille ou individuellement. Sixièmement, la liturgie des heures, je vais l'intituler comme ça, pastorale et mission. On entend souvent cette réflexion, enfin souvent de temps en temps au moins, de la part même de chrétiens, mais enfin, à quoi ça sert des gens qui sont un peu retirés, qui sont cloîtrés? Qu'est-ce qu'ils font? Il ferait mieux d'être en paroisse, surtout au moment où l'on manque de prêtres. Il y a dans l'Église plusieurs activités. Il y a la mission, il y a la pastorale, il y a la catéchèse, il y a la liturgie. Mais il n'y a qu'une seule Église qui forme un tout avec des activités différentes, mais indispensables et complémentaires. Et les vocations et les charismes font que tel chrétien se sent plus appelé à telle activité qu'à telle autre. La vocation est un appel de l'Église au nom de Dieu, et toutes les vocations, tous les services, toutes les fonctions sont nécessaires à l'Église et participent à la construction de l'Église. Et il n'y a pas une vocation qui est meilleure que l'autre. Ça, non. Chaque vocation est complémentaire de l'autre, des autres. Que serait une Église où la permanence de la prière ne serait plus assurée? Que serait une Église où l'annonce explicite du Christ ne serait plus assurée? Le pasteur prie, mais aussi gère la pastorale. Le catéchète prie, mais aussi catéchise. Le missionnaire prie, mais aussi évangélise. Voilà. Certains ont la vocation et la mission de toujours prier sans se lasser. Tous sont différents, mais ils sont unis dans la même prière. Et enfin, dernier point, que l'âme s'accorde avec ta voix. En effet, la célébration de la liturgie des heures est une école de prière où on apprend à prier. Vous savez, c'est comme toute chose. Pour apprendre à prier, il faut prier. C'est en priant qu'on apprend à prier. Il ne va pas de soi de prier du fond du cœur. C'est un apprentissage. Celui qui célèbre la liturgie des heures prononce les mots de cantiques, des psaumes, des prières qui ne sont pas forcément les siens ou qui ne correspondent pas à ses sentiments du moment. J'en ai parlé pour les psaumes il y a un mois. Tant qu'il lit ces textes avec des yeux, il ne comprend pas. Et on peut rester à l'extérieur de ce qu'on dit dans les prières. Mais petit à petit, celui ou celle qui prie découvre que ces mots peuvent avoir un sens pour lui, dans le moment présent, dans tout ce qu'il vit. Alors, peu à peu, le priant, enfin celui ou celle qui prie, s'approprie petit à petit la prière de l'Église. Et ainsi, il rejoint la prière de toute l'Église sans abandonner ce qu'il est lui-même. Voilà, le priant accorde ainsi à son âme ce que disent ses lèvres. Et la prière se construit et devient authentique. Ça va? Vous avez encore un peu de courage? Troisièmement, j'ai intitulé « Une petite pédagogie de l'office ». Alors, on va parcourir la liturgie des heures. Il y a un même canevas pour la prière du matin, la prière du milieu du jour ou la prière du soir. C'est le même canevas, simplement, à ce canevas, ce squelette, si vous voulez, on y ajoute plus ou moins des éléments. Mais c'est la même structure. Parcourons cette structure. D'abord, une introduction. Pour toute chose, il faut une introduction. Le premier élément à considérer, c'est le silence qui encadre la prière. C'est comme une œuvre musicale. Parmi vous, il y a des musiciens. Et vous savez très bien que avant de jouer ou de chanter une pièce, il faut se mettre en condition. On ne chante pas une pièce comme ça. Il y a une manière d'être. On se met en position. De même, à la fin d'un chant, ou à la fin d'un morceau de musique, et alors ce n'est pas un père de l'Église, c'est Sacha Guitry qui le disait, le silence qui suit un morceau de Mozart, c'est toujours du Mozart. Ça vaut pour, je laisse Sacha Guitry, mais ça vaut pour toute chose. Avant de prier, il faut se mettre un peu en condition. Vous pourriez me rétorquer, mais celui qui prie dans le métro, il n'a pas trop les conditions. C'est vrai, mais on peut même dans le brouhaha se mettre en condition. Le silence, c'est comme un écrin, si vous voulez. Avant de commencer la prière des heures, il faut habiller son cœur. 311, la prière est un don. Et bien dans ce silence surgit un cri, nous l'avons lancé, « Dieu, viens à mon aide ». Ainsi, celui ou celle qui veut prier se situe devant Dieu comme ne sachant pas prier. Au début de la prière, on invoque Dieu, « Dieu, viens à mon aide ». Et Dieu sait si on a besoin de l'aide de Dieu. Le baptisé a besoin de l'aide de Dieu pour prier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul qui l'écrit dans la lettre aux Romains. Et ce verset, ce petit verset, « Dieu viens à mon aide », met donc celui ou celle qui veut prier la liturgie, dans une attitude d'humilité, d'humilité. Avec le même livre, même avec un livre de prière entre les mains, il importe de se rappeler que la prière est avant tout un don de Dieu. Et ce cri est confiant. Le premier mot de la liturgie des heures, c'est Dieu, Dieu. Ainsi, la parole vient ici rejoindre et confirmer l'attitude. C'est bien Dieu que nous nous que nous mettons en prière. Et un geste qui confirme, c'est le signe de la croix. Voilà. Parce que on n'est pas déiste, on est chrétien. Nous connaissons le Dieu de Jésus-Christ. Et le signe de la croix, c'est le signe des chrétiens, pour nous aujourd'hui en tous les cas. En un seul mot, la liturgie des heures proclame que Dieu est présent, qu'il est une personne pour laquelle chacun éprouve du respect, une personne à laquelle nous pouvons nous adresser. C'est un « Dieu, viens à mon aide », un vocatif, on interpelle. Et ce Dieu, nous pouvons chanter son nom, chanter pour lui parler. C'est saint Augustin qui disait « Le chant est le propre de l'amour ». C'est lui qui disait aussi, mais la bonne situation, c'est chanter bien ses prières de foi. On dit toujours chanter ses prières de foi, non, c'est chanter bien ses prières de foi. C'est pas pareil. Ce Dieu auquel nous adressons est donc une personne aimée. Le dialogue qui s'amorce dans ce petit verset d'introduction est un dialogue, j'ose le dire, amoureux. Et normalement, une seule personne proclame cette introduction, et puis quand c'est en assemblée, les autres répondent « Seigneur, à notre secours !» Voilà, il y a un dialogue là. Bien. Deuxième élément, le chant de l'hymne. Donc après cette introduction, il y a une hymne. Les hymnes, voilà, les hymnes. Alors, petite précision, ça c'est les joies de la langue française, c'est que le terme hymne, dans le cadre liturgique, c'est au féminin, on dit une hymne liturgique. Et dans le cadre profane, on dit un hymne national. Ça simplifie les choses. Ça. Voilà. C'est comme ça. Donc les hymnes liturgiques sont des chants chrétiens, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, non bibliques, qui ne sont pas dans la Bible, mais de nature, comment dirais-je, quand une poésie, de nature lyrique, destinée à la louange de Dieu et à la construction du groupe en assemblée. Les hymnes sont vraiment des chants avec une mélodie large, développée. Alors, pour faire simple, ça s'approche du cantique liturgique. Simplement, le cantique liturgique est bâti sur, strophe, refrain. En général, une hymne n'a pas de refrain. C'est strophique. Bon, mais je laisse de côté. Chantée au début de chaque office, l'hymne a une triple fonction. Alors, normalement, une hymne doit être chantée. Mais évidemment, celui qui prie l'office, qui prie la liturgie des heures dans le métro, ne va pas commencer à chanter. Mais quand on est en groupe, ne serait-ce que deux ou trois, c'est bon de chanter. Même si on ne chante pas, même si on n'est pas à la voix de... On n'est pas à la scala de Milan. Hein. Triple fonction. D'abord, l'hymne nous place d'emblée, comment dirais-je, sous le signe de la louange que l'humanité, que les hommes adressent à Dieu. Voilà. Deuxième fonction, elle situe l'office dans le cadre de la journée ou de la fête célébrée ou du temps liturgique. Je m'explique. L'hymne du matin, ce n'est pas la même hymne du soir. Une hymne de carême, ce n'est pas une hymne d'avant, etc. Et quand on chante, c'est comme pour les cantiques, tel chant, hop, immédiatement, ça nous dit, ça c'est le temps de l'avant, ou ça le temps de carême. Bien, c'est pareil pour les hymnes. Troisième fonction, l'hymne permet aux personnes qui viennent de se réunir, de se constituer en groupe, en assemblée. Voilà, c'est une ouverture qui se met en place. Quand on est en groupe, on ne l'a pas fait tout à l'heure, mais ce n'est pas un reproche, hein. C'est un constat. Quand on est en groupe, normalement, l'hymne, on est debout pour l'hymne. Pourquoi ? Non seulement d'abord pour chanter, c'est beaucoup mieux, hein, la posture verticale, mais également la station debout, la posture debout, c'est la posture du ressuscité. Vous savez que résurrection, ça veut dire se mettre debout, se lever. Le ressuscité, il se lève. Voilà. Et donc, bien sûr, chanter ensemble et créer une communion. Chanter est un acte corporel qui touche tout notre être dans sa sensibilité. Dans la liturgie chrétienne, chanter, c'est exprimer également la joie du ressuscité, la joie pascale. Également, le chant, je le signale, mais on a tous fait cette expérience, favorise la mémorisation. Ça, c'est indéniable. Vous l'apprendre un texte, qui n'a pas, mettez-y une mélodie, et je vous assure que vous allez l'apprendre beaucoup plus facilement. C'est comme ça. Mais les hymnes ne sont pas que musique, elles sont aussi textes, des textes contemporains, voilà, et des textes qui ne sont peut-être pas toujours abordables au premier degré, mais c'est comme une source. Voilà, on y revient et on vient se désaltérer. Et petit à petit, on découvre la richesse de ces textes. Le contenu de l'hymne, peu à peu, devient nôtre, de même que la relation de confiance et l'attitude filiale envers Dieu qui se déploie dans son chant. Voilà pour l'hymne. Deuxièmement, la psalmodie. Je serai assez court, assez bref, parce que je ne reviendrai pas sur un certain nombre de choses que j'ai dit il y a un mois. Le baptisé qui prie les psaumes exprime sa foi, sa confiance en Dieu à travers les cris, les joies, les peines. Chanter ou du moins prononcer à haute voix les psaumes permet de faire nôtre ces paroles. De plus, la psalmodie introduit dans la récitation des psaumes comme une retenue qui transforme le temps. Tout à l'heure, nous avons vécu la psalmodie. Alors, la psalmodie, il ne faut pas s'imaginer des musiques très compliquées. Il y a des musiques tout à fait simples. L'essentiel dans la psalmodie, je signale quand même, c'est le texte. C'est le psaume qui prime. La mélodie est là comme support. Bien. Alors, je vais aller très vite parce que ça j'en ai déjà parlé. Dans la psalmodie, c'est la voix de l'Église qui s'exprime. Hein? Également, dans la psalmodie, il y a une œuvre qui s'accomplit. La manière traditionnelle de chanter les psaumes, c'est la manière alternée, si vous voulez. Si on avait fait ici, c'est ce côté-ci, puis ce côté-là. Et on se répond. Ça, c'est très, très, très traditionnel. Au départ, c'est comme ça. Alors ensuite, ça s'est complexifié, ça s'est développé. Mais la manière de prier Et cette manière-là dit une certaine communion, une dimension d'église. Voilà, elle signifie que le Dieu auquel s'adresse l'église est une personne avec laquelle elle entre en relation. On se répond. De plus, le Christ n'est-il pas aussi présent dans celui ou celle avec qui je prie? Quand nous prions les psaumes, que nous soyons là une trentaine de personnes, quarantaine de personnes, ou deux personnes, le Christ est là au milieu de nous. Il l'a promis. Il l'a dit. Et puis, troisièmement, la psalmodie est également une expérience spirituelle, parce que par sa beauté, le chant donne aussi du goût au psaume. Quand je dis beauté, ce n'est pas forcément une beauté, lyrique au sens de l'opéra. Chanter simplement, psalmodier simplement, j'ose dire proprement, les psaumes, produit de la beauté. Elle dit la saveur de la rencontre et du dialogue avec Dieu. En psalmodiant, le croyant manifeste son respect, son émotion aussi devant la beauté de Dieu. Il m'arrive personnellement, lorsque je suis dans un autre monastère, je participe évidemment à la prière, mais de ne pas chanter, mais de m'unir à la prière en écoutant et en faisant mien cette prière. D'autant plus que si la mélodie, je ne connais pas bien la mélodie, plutôt que d'essayer et de me tromper, voilà, entrer comme ça dans la prière qui est chantée, prononcée par un groupe. Goutte à goutte, la liturgie des heures nous modèle, ou plutôt l'Esprit-Saint nous modèle à travers elle, et la psalmodie y contribue grandement. Il s'agit de se laisser toucher, de lâcher prise et d'accueillir le don que Dieu nous fait dans sa parole, nous fait de sa parole. Alors évidemment, j'ai mon petit couplet parce que ça fait partie de mes dadas, c'est le silence. Quel que soit le lieu, en particulier si on prie dans un groupe, il faut toujours laisser entre les différentes parties, entre s'il y a plusieurs psaumes, toujours un temps de silence pour laisser toujours résonner le psaume qu'on vient de prier avant de commencer le suivant. Parce que quand ça se télescope, c'est pas très bon. Voilà. Troisièmement, après la psalmodie, la lecture brève. C'est une lecture qui est brève, comme dit le titre. Mais ça ne veut pas dire que ça ne dure qu'un verset. Un lecteur ou une lectrice, quand on est à l'assemblée, se lève et va dans un lieu approprié, qu'on appelle, si c'est une église, l'ambon, mais si ce n'est pas dans une église, un lieu quand même, pour proclamer la parole de Dieu à partir soit du livre, prière du temps présent, soit de la Bible, soit d'un lectionnaire. Et tout le monde l'écoute en silence. L'assemblée écoute, l'assemblée n'est pas lectrice. Et en même temps, le lecteur, celui qui lit ou celle qui lit, n'est pas étranger à l'assemblée. Il en est issu. Parce qu'après la lecture, il va reprendre place dans l'assemblée. Mais à ce moment-là, il est comme le ministre, si vous voulez, le serviteur de cette parole pour ses frères et ses sœurs. C'est pour ça que lorsqu'on lit, quand on est quand même un groupe, il est bon que le lecteur au moins se lève pour lire la parole de Dieu. Ou alors si on est même dans une église, qu'il aille au lieu spécifique qu'on appelle l'ambon. Donc on entre dans le temps de la lecture, une lecture lente, voilà. Et l'écoute de cette lecture engage une autre attention que la lecture personnelle. Il s'agit de s'en remettre à la voix de notre, ou plus précisément, celui ou celle qui fait la lecture va permettre qu'un texte imprimé, qui est là, devienne parole vivante par la médiation, l'intermédiaire plutôt, d'un souffle de corde vocale et d'une émission de la voix. La parole de Dieu, elle est vivante à partir du moment où elle est proclamée, où elle est partagée. D'où celui, ça vaut pour l'office, ça vaut pour toute lecture, celui qui proclame ou celle qui proclame une lecture a une drôle de responsabilité. On ne lit pas un passage de la parole de Dieu comme je vous lis mon texte là. Non. On a une mission, c'est pour ça qu'il faut préparer une lecture, etc. Mais ça, c'est un minimum. À la fin de la lecture, comme je le disais, le lecteur ou la lectrice rejoint l'assemblée. Et puis on garde un moment de silence, un petit moment de silence. Et pour bien, comment dirais-je, mettre en relief que la liturgie des heures est une liturgie de dialogue. Depuis le début, Dieu vient à mon aide, Seigneur notre secours. La psalmodie, l'hymne, dialoguer, la psalmodie. Là aussi, il y a un dialogue. Après la lecture, il est proposé dans le livre de prière un petit répond. C'est des phrases que l'on dit et qu'on répond. Voilà. C'est une réponse à la lecture. Pardon. Et puis vient, autant le matin que le soir, le cantique évangélique. Parce que nous avons chanté les psaumes. On peut chanter aussi un cantique du Nouveau Testament tiré des lettres de Saint Paul ou de Saint Pierre. Mais on n'a pas lu encore, alors on n'a pas lu encore un passage d'évangile. Et à ce moment-là, de la prière, on va chanter, ou on va proclamer un passage d'évangile, soit le matin, soit le soir, mais pas n'importe lequel. Le matin, on va chanter le cantique de Zacharie. Et puis, le soir, on va chanter le cantique de Marie, qu'on appelle Magnificat. Et d'ailleurs, quand on est en assemblée, on se lève à ce moment-là. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que c'est un passage d'évangile. À la messe, on se lève pour accueillir l'évangile. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Le cantique de Marie. C'est le cantique de Marie et pas le cantique à Marie. Quand on chante le Magnificat, en bascantus alisai, mon âme exalte le Seigneur, il ne faut pas se tourner vers la statue de Marie. Parce que c'est Marie qui exprime mon âme exalte le Seigneur. Je dis ça parce que quelquefois, dans certaines célébrations, à la fin on chante Magnificat et puis on se tourne vers la statue. C'est un non-sens de se tourner vers la statue de Marie en chantant le Magnificat. On peut chanter, on peut se tourner vers Marie en chantant un chant à Marie. Voilà. Le Magnificat, c'est le cantique de Marie. C'est elle qui exprime sa louange. C'est au Seigneur. Voilà. Bon, c'est une parenthèse. On va pas les. En fait, pas. Nous sommes toujours là. Puis vient les prières d'intercession. Car toute prière chrétienne doit toujours s'ouvrir aux autres. Toute prière chrétienne ne se referme pas sur elle-même. Et les prières d'intercession sont là précisément, autant le matin que le soir, pour nous ouvrir, pour porter à Dieu les intentions. Alors, prière d'intercession, ça peut être de la louange, de la supplication, de la demande, tout ce qu'on veut. C'est de type prière universelle. Je dis bien, pour faire rapide, de type prière universelle. Et c'est important d'adresser à Dieu ces intercessions. Le baptisé qui prie la prière des heures, il n'est pas seul. Il entre dans la prière de l'Église et sa prière s'ouvre aux dimensions du monde entier. Alors, il peut y avoir des intentions libres. Voilà. Et le sommet de cette prière d'intercession, c'est la prière du Notre Père. Alors, je voulais vous dire ceci, c'est que dans la liturgie des heures, il y a un mouvement, il y a une montée, si vous voulez. On commence par « Dieu, viens à mon aide ». On n'est pas capable de prier « Dieu, viens à mon aide ». Puis on chante une hymne, on se met en condition de la prière. Et puis on chante des psaumes, on monte. Et puis il y a le passage de la parole de Dieu qui est souvent tiré de lettres de Saint Paul ou de Saint Pierre. Et puis, on se met debout, il y a le cantique, je parle pour les vêpres, le cantique de Marie. Et puis ensuite, qui est un passage d'évangile, puis ensuite, il y a les prières d'intercession. On ouvre notre prière aux dimensions du monde. Et le sommet de la prière, le sommet de l'office, le sommet de la liturgie des heures, c'est la prière du Notre Père. Rappelez-vous, les disciples qui demandent à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus nous donne, parce qu'il nous a donné, la prière de Notre Père. Le Notre Père vient en quelque sorte couronner ce temps de prière. La liturgie des heures n'est pas statique, elle a un mouvement ascendant, dont le sommet est précisément la prière du Seigneur, où est exprimée toute notre dimension de fils et filles de Dieu, parce que frères et sœurs du Christ. Et pour conclure, il y a une prière qu'on appelle l'oraison, qui est spécifique à l'heure, ou à la prière, ou à la journée, ou si c'est un saint, etc. Et nous terminons la prière, car il faut toujours introduire, il y a toujours une introduction, il faut toujours une conclusion dans un temps de prière. Il faut une introduction et une conclusion. Et on conclut toujours par cette acclamation. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné de vivre durant ce temps de prière. Cela signifie que la célébration de la liturgie des heures n'a été possible que grâce à Dieu. Chers amis, pour conclure cette matinée, permettez-moi de vous réaffirmer que la liturgie des heures, la prière de l'Église, ne nous sépare pas de l'humanité. Au contraire, elle nous la fait rejoindre. À travers la prière, elle voudrait ressaisir toute prière humaine, prière balbutiante, prière maladroite, prière sans mots parfois, prière d'un regard de détresse, ou d'une main tendue. Voilà, cette œuvre de louange n'est pas une louange béate qui se complairait dans un bonheur idéalisé. C'est louer Dieu que de prendre en compte tout notre être humain avec ses cris, ses détresses, ses angoisses, ses joies. Voilà, pour les lui présenter. Ça serait désoler Dieu que de nous enfermer dans notre malheur. S'adresser à Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, même pour l'admonester, comme sait bien le faire le psalmiste, c'est déjà prendre au sérieux la relation avec lui. C'est lui exprimer notre foi en son secours et en son amour. Je vous remercie pour votre patience.
La liturgie des heures, prière de toute l'Église. Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de l'intervention du frère Benoît-Marie Solaberrieta, prieur de l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte. Intervention enregistrée le 11 mars 2017 lors d'une journée proposée par le service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle et par la commission diocésaine de musique liturgique.